Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Alain Passerelle.
Aujourd'hui on va dans un pays star des livres d'histoire en quelque sorte.
Et oui, on va en Égypte, une flottille de 15 livres qui vont repérer les mondes anciens se lève aux éditions Belin et le deuxième de ces livres est consacré à l'Égypte.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du centre d'exploration du temps. Allô, au centre d'exploration du temps, me recevez-vous ?
Égypte, quoi de neuf ?
Maintenant, il me reste une ambition. Je veux bâtir un tombeau pour recevoir ce corps. Un tombeau que personne ne songera à violer, ou enfin, je reposerai en paix, ou je profiterai de ma seconde vie.
Selon la tradition historiographique, le pharaon se tenait au sommet et sa volonté toute puissante ruisselait de haut en bas. L'égyptologie a souvent été assez jacobine. Au-dessous de lui, des hommes, on se demande où étaient les femmes, remplissaient chacun un rôle prédéterminé par l'autorité. L'histoire de l'Égypte n'est pas à dominante sociale et elle ne s'est pas beaucoup occupée des identités locales et des élites intermédiaires. Ou bien elle s'est contentée, dans la grande tradition de Voltaire et de Renan, de dénoncer le discours de servitude qui aurait été constamment à l'œuvre dans l'Égypte ancienne. Et au-delà de la vie des hommes, la mort. Les Égyptiens auraient su en rendre l'approche plus rassurante. Les différents courants de l'égyptologie, quelle que soit leur origine, insistent tous sur cette singularité. Singularité, exceptionnalité. L'Égypte serait une oasis trimillénaire qui échapperait non seulement au comparatisme, mais même à la loi des échanges. Isolée du monde par des déserts, peuplée d'une population ethniquement homogène, elle n'est pas loin de ressembler à une utopie. Et si on la rendait à l'histoire ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Damien Agut-Laborder, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le co-auteur d'un livre consacré à l'Égypte. C'est le deuxième d'une flottille de 15. Vous êtes d'ailleurs deux à signer, Juan Carlos Moreno Garcia et vous-même, cette Égypte des pharaons. Les éditions Belin, un mot quand même sur l'aventure qu'elles lancent. Elles sont coutumières de grandes entreprises au long cours. La géographie universelle, la guerre, l'histoire de France, et là, 15 livres d'un coup. Enfin, ils vont paraître échelonnés, bien sûr. Mais ils sont pensés ensemble.
Ils sont pensés ensemble, ils sont pensés sur une perspective pour l'Égypte et la Mésopotamie, où on va revaloriser l'approche archéologique, en réalité. L'égyptologie et l'assyriologie sont deux disciplines fondées sur l'étude des textes, la philologie. Et là, l'idée, un petit peu là, le fil rouge qui s'est dégagé au fur et à mesure du processus d'écriture, a été d'intégrer des données archéologiques non écrites, ce qui nous permet de rentrer dans une profondeur sociale beaucoup plus grande
que ce qui était le cas jusque-là. Et puis vous faites aussi une histoire, comment dire, globale. C'est une histoire antique, mondiale, qui insiste sur les échanges. On aura l'occasion de le dire. Il y a quelque chose dans votre biographie qui a attiré ma sympathie. C'est seulement il y a une dizaine d'années que vous avez quitté le secondaire. Et dans le secondaire, vous êtes resté au collège. C'était sans doute pour enseigner au 6e l'Égypte.
C'était pour enseigner au 6e l'Égypte, c'est aussi parce que j'ai eu la chance d'être dans un collège formidable, qui est le collège de Franconville, le collège du Bel Air. C'est aussi une expérience de pédagogie très importante en collège. C'est-à-dire que de la 6e à la 3e, on est face à des élèves qui sont très très différents, qui ont des capacités cognitives très différentes, et on est obligé, chaque heure de cours, de s'adapter. Et finalement, cet apprentissage, cette pédagogie, cette gymnastique pédagogique du collège, a été très utile dans l'écriture d'un volume comme celui-là, qui doit pouvoir être lu assez aisément par tout
Alors,
un chacun.
Vous insistez sur le fait que l'Égypte n'est pas faite que d'altérité et d'échange, c'est le fil conducteur de votre livre, mais les élèves de 6e, ils aiment l'Égypte parce qu'elle est radicalement autre.
Ils aiment l'Égypte, oui, parce qu'il y a des marqueurs d'identité égyptienne forte qui procèdent en fait de notre imaginaire occidental en particulier. C'est nous qui avons construit l'Égypte pharaonique. Attention, hein, c'est une production culturelle qui remonte au monde grec, latin, à la Renaissance et jusqu'au 19e siècle. Et les élèves, effectivement, sont les héritiers de cette tradition-là et arrivent avec une fin d'Égypte, mais une Égypte qui soit conforme à leur attente.
Mais comme il faut vous avez quand même début, que vous leur racontiez que l'Égypte est fille de l'eau, même s'ils ont faim d'Égypte. Alors, ceci, c'est ce qu'on entend d'habitude que vous devez leur dire d'entrée de jeu, parce que c'est ce qu'ils attendent. Un extrait du film de Guy Gilles, « Nous sommes sur les bords du Nil », et puis vous entendrez les animaux de l'Égypte attendus par les élèves, et puis des clapotements et des mouvements d'eau.
D'où viens-tu, étranger ?
D'un pays lointain, la Mitanie.
Où vis-tu, étranger ?
Je dors sous les arbres le long du fleuve. Parfois, des pêcheurs m'hébergent.
On m'a dit que le bateau de la nouvelle épouse royale est passé en aval du fleuve, là-bas. Elle viendrait, comme toi, d'un pays lointain. Cette nuit, tu peux dormir dans le petit jardin qui entoure ma modeste maison.
Tiens, l'étranger qui pointe le nez, on y reviendra tout à l'heure. C'est une oasis, expliquez-vous.
Alors,
à vos
c'est
élèves.
C'est une oasis, oui, parce que c'est un endroit où on trouve de l'eau au milieu du désert. Le Nil a cette particularité de traverser le Sahara de part en part, du nord au sud. C'est le seul fleuve qui traverse le Sahara, le plus grand désert du monde, de cette façon-là. De fait, on a une Égypte qui se construit comme une oasis, c'est-à-dire qui est entourée, qui est bordée de désert, avec de part et d'autre du fleuve des bandes irrigables plus ou moins étroites. Et ça développe. Mais attention, quand on dit oasis, on pense toujours à la phrase aussi d'Hérodote, l'Égypte est un don du Nil. Il faut se méfier de cette phrase, parce qu'elle est un don du Nil. Le paysage égyptien, comme tous les paysages oasiens, quel que soit l'oasis du monde, est hautement artificiel. Il est fabriqué par l'homme, par le travail des hommes. Et le Nil, il a fallu pour les Égyptiens de le domestiquer. De ce point de vue, d'ailleurs, le grand barrage d'Assouan qui existe aujourd'hui, c'est le dernier effort de l'homme pour essayer de contenir ce fleuve qui, en plus, est doté d'une crue.
Une civilisation rurale savante.
Oui.
Alors, le nord-sud, la verticale, le Nil. Je vous propose un instantané. Votre livre, c'est un livre de la longue durée, oui. Plus de 3 millénaires. Mais on va prendre un instantané, on va être sous l'Ancien Empire. Ah, attendez, il faut peut-être pas dire Ancien Empire, vous êtes contre
Non, je suis pas contre cette division, Ancien, Moyen, Nouvel Empire. Mais je trouve que 3e millénaire, deuxième partie du 3e millénaire, c'est plus clair pour tout le monde.
Mais alors, moi, je vais vous proposer un son qui date de 2280 avant notre ère. Alors là, on est sous la 6e dynastie. Mais attendez, vous nous expliquez que dynastie...
Dynastie, le problème, c'est qu'on est héritier d'une typologie politique qui a été faite à l'époque hellénistique, c'est-à-dire au 3e siècle avant Jésus-Christ.
Ouais.
Et cette typologie, on l'a reprise un peu telle qu'elle, à mon avis, un peu trop facilement. Et on ne sait pas très bien comment l'historien qui s'appelait Manéthon, qui a fabriqué ces dynasties, les a faites.
Ouais.
Donc on les reprend et on cherche à faire rentrer nos données contemporaines là-dedans, mais ça ne marche pas toujours très bien. Donc c'est pour ça que là aussi nous avons pris quelques libertés avec les dynasties.
Lecture d'un texte gravé de l'époque du pharaon Menréré. Alors un texte gravé, c'est un texte en hiéroglyphe, mais vous insistez sur le fait qu'il y a aussi d'autres types d'écriture, cursive, sur papyrus par exemple, beaucoup plus utilisé, et auquel il faut aussi faire confiance, parce que texte gravé... pour l'éternité.
Le problème, c'est que nous héritons de ce qu'il y a de plus solide. Donc nous héritons de la pierre. Et la pierre, elle est le support privilégié de l'écriture hiéroglyphique, qui est une écriture canonique, qui sert à fixer des textes importants, commémoratifs. Et évidemment, les Égyptiens n'utilisaient pas les hiéroglyphes dans la pratique quotidienne. C'est absolument infernal. Donc ils ont mis au point des écritures cursives, une écriture hiératique, plus tard une écriture démotique. Et donc l'administration quotidienne, la vie quotidienne, les actes de la vie quotidienne se faisaient à l'aide de cette écriture cursive.
Alors on est sous Menréré, on va faire un jeu comme on fait en sixième. Vous allez reconnaître, je pense que la traduction n'est pas trop maladroite, l'auteur qui a commandé ce texte gravé. Lecture dans Analyse spectrale de l'Occident, c'est une émission antique de France Culture.
Sa Majesté le Pharaon m'envoya à Ibat pour amener un sarcophage avec son couvercle et le pyramidion auguste et vénérable de la pyramide Khénéphérénout de Merenré. Sa Majesté m'envoya également à Éléphantine pour amener une stèle porte en granit avec son soubassement, les battants des portes de granit et les baies de portes de granit et des soubassements pour la chambre supérieure de la pyramide Khénéphérénout. Je naviguai ensuite de là vers le nord jusqu'à la pyramide, avec 6 chalands, 3 radeaux, 3 bateaux de 8 brasses, en une seule expédition. Jamais on n'avait fait Ibat et Éléphantine en une seule expédition au temps de quelque roi que ce soit. Sa Majesté m'envoya aussi à Etnoub pour ramener une grande table d'offrande en albâtre. Je lui fis descendre cette table d'offrande en 17 jours, après qu'elle eût été extraite des carrières de Etnoub, et elle navigua dans le chaland que voici. J'avais taillé pour elle un chaland d'acacia de 60 coudées de long, de 30 coudées de large, que je construisis en 17 jours au 3e mois de Chémou. Bien qu'il n'y eût pas d'eau sur les rapides, j'abordai heureusement vers la pyramide de Canéfer de Mérenré, et tout s'acheva conformément au commandement divin qu'avait prescrit la majesté de mon Seigneur.
Bon, nous avons deviné qu'il s'agissait de quelqu'un qui était très proche du pharaon, d'un fidèle. Vous êtes capable de mettre un nom comme ça ?
Alors, je ne suis pas spécialiste du troisième millénaire, ma gorge se serre.
C'est Juan Carlos Morena Garcia, votre compère qui est plus spécialiste du troisième millénaire.
Je pensais notamment à Ouni, une espèce de... que dans l'historiographie a une espèce de Colbert de cette période-là, grand serviteur de l'État, et qui effectivement est chargé du transport des matériaux précieux qui vont servir à l'édification de ces pyramides.
Mais alors je vois d'autres noms qui apparaissent dans votre livre sur l'Égypte des pharaons, comparables, Ini, Car. Alors ça, ce sont des gens qui travaillent auprès du pharaon, et quand on voit comme ça les inscriptions qu'ils laissent, on voit quelle est l'extension de la couronne le long du Nil à cette époque-là, troisième millénaire.
Alors c'est là où l'archéologie maintenant joue un rôle majeur, c'est qu'on voit l'extension de la couronne par le biais de l'épigraphie, par le biais des localités dont ces gens disent qu'ils ont été responsables pour la couronne. Mais on voit aussi maintenant, grâce à l'archéologie, les bâtiments en terre crue, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était de la terre crue, qui étaient ces bâtiments administratifs répartis le long du Nil. Car l'architecture de pierre qui nous fascine tant pour l'Égypte est en fait l'architecture la plus rare, la plus précieuse qu'utilisaient les Égyptiens. Les villes, les bâtiments administratifs et une grande partie des temples étaient en fait réalisés en terre crue.
Alors, archéologie. Nous sommes dans une oasis... C'est Nicolas Grimal qu'on va entendre en 1981. Il y a la verticale du Nil et puis il y a des pistes ou des routes perpendiculaires qui mènent à la mer Rouge, qui mènent à la Nubie, au Soudan, à l'Afrique. Nous sommes à Balat.
On a toujours tendance à privilégier la route naturelle qui représente le Nil, mais il semble de plus en plus qu'il y ait de fortes présomptions sur une route tout aussi naturelle qui passait par les oasis.
Oui, c'est celle des caravanes. Celle des caravanes, qui était un lien plus commode, puisque le Nil présente des barrières naturelles à partir de la première cataracte, et on ne peut plus l'utiliser comme voie de passage. Il faut faire du portage, il faut suivre des pistes. Et finalement, la piste du Soudan gagnait même du temps par rapport à un trajet sur la vallée du Nil.
Le climat, la géographie, était complètement différent à cette époque.
Ah oui, on peut supposer que à cette époque, la région que vous voyez tout autour de vous était fertile, était abondamment arrosée avec probablement des bassins de retenue d'eau, des bassins qui donnaient lieu à des canaux qui irriguaient des champs tout autour. C'est la découverte d'un monde en dehors de la vallée du Nil. Et jusqu'à présent, pour nous, l'histoire a été essentiellement celle de la vallée du Nil. C'est peut-être l'histoire de la première colonie égyptienne hors d'Égypte. C'est donc l'histoire des rapports d'une civilisation constituée comme celle de la vallée du Nil avec des populations qui lui sont étrangères. Comment réagissaient les Égyptiens face aux autochtones? Qu'en ont-ils fait? Comment les ont-ils utilisés? Les ont-ils assimilés? Autant de questions peut-être auxquelles nous pouvons répondre.
Alors si au troisième millénaire le désert a encore l'aspect d'une savane, c'est une raison de plus pour ne pas penser l'Égypte comme une oasis isolée du monde, peuplée d'une population ethniquement homogène, sans échange ou avec peu d'échanges. Alors, qu'est-ce que c'était que ces caravanes et les nobles ou les chefs de caravanes qui les animaient?
Alors, pendant longtemps, on s'est focalisé toujours pareil sur les sources écrites qui évoquaient ces caravanes. Maintenant que l'archéologie a beaucoup progressé, notamment la céramologie, on se rend compte que des routes commerciales existaient et préexistaient même en fait à ce que les textes nous disent. C'est-à-dire, généralement, le roi et les agents du roi se glissent sur des routes qui préexistent. Et il s'y glisse autant de temps que la couronne a les moyens de diligenter ses caravanes. Mais les pistes et ces pistes-là, de toute façon, restent actives, notamment par des populations pastorales qui font bouger leurs troupeaux de citerbu en citerbu, en transportant avec les troupeaux des fois des métaux précieux, du cuir, tout un tas de marchandises qu'elles pouvaient revendre à la faveur justement de leur déplacement. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'a pas besoin des rois pour avoir de la mobilité.
Et nous sommes à une époque où ce Sud arrimé à l'Afrique, dans la série Mondes anciens de Belin, il y aura un volume de François-Xavier Fauvel sur les Afriques. C'est un moment où la monarchie, elle vient du Sud, enfin, elle est... elle a pour capitale au nord Memphis, mais le centre de gravité, non, il est au Sud.
Ouais, le centre de gravité de la monarchie, en fait, va fluctuer. On a un bloc de temps qui est énorme, de 3 millénaires et demi. Donc ça fluctue en fait en fonction des grands mouvements de la géostratégie.
Mais là, au troisième millénaire.
Au troisième millénaire, on a une monarchie qui monte au nord, avec Memphis dans la première moitié, si on veut. Et dans la deuxième moitié, effectivement, elle va revenir vers le sud, notamment la Moyenne-Égypte, qui devient apparemment un centre marchand tout à fait considérable.
Donc une monarchie qui s'appuie aussi sur des identités locales. Si celles-ci ne reconnaissent pas le pharaon, celui-ci est assez vite démuni.
Le roi compose avec les élites locales, mais comme tout pouvoir politique.
Parce qu'il y a une histoire politique imprévisible et changeante en Égypte. Ça, c'était l'instantané troisième millénaire. On va parcourir quelques millénaires à grandes enjambées, passer au deuxième, puis au premier. Mais d'abord, Donia Massoud. Donia Massoud, c'est une chanteuse et une comédienne égyptienne d'Alexandrie, à l'époque que l'on considérait Alexandrie et le Delta n'avaient guère d'importance.
كل ساعة في وسعتنا من بعد الظهر نركب ظهر لاقتنا قالت نعمل ايه لو العرب شافتنا قولي دعمي وساكت وجر ساقتنا طالع للفسح والمس ولا مراه ولا تعبان وجلع استبهر لبراه التاب طمطى جاب الايادي وراه قام شرط القميص نهدو طلع براه نانا عالجنينة الجنينة المسجي في حيضانه سجر المسترح ضل على عيدانه
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec aujourd'hui une vaste question, quoi de neuf dans l'Égypte ancienne? Le copilote du volume numéro 2 de la série Mondes anciens de Belin, c'est une grosse brique bleue de 2 kilos, mais au prix accessible, qui est consacrée, le titre est classique, le contenu l'est moins, à l'Égypte des pharaons. L'Égypte des pharaons, on est passé maintenant grosso modo au 16e, 14e siècle avant notre ère. À de l'or, encore faut-il l'exploiter, du côté de la mer Rouge, manque de bois, manque d'étain, manque de cuivre, à des échanges avec l'Afrique, on en a parlé, avec le Levant. Il y a même eu un moment où l'extension a été telle, à la période que je citais, que l'Égypte a ressemblé à un empire.
Oui. Oui, en fait, l'Égypte, elle avait le problème de l'oasis, c'est la pénurie de ressources. Mais l'Égypte a une chance dans son positionnement géostratégique, c'est qu'elle avait au nord la ressource en bois, j'insiste beaucoup sur le bois, mais le cuivre aussi et l'étain qui lui manquait, et l'or au sud qui pouvait servir de monnaie d'échange. De sorte que si elle avait un double mouvement d'extension, au nord et au sud, elle pouvait, vers le nord, acheter des produits avec le moyen de paiement qu'elle trouvait au sud. Voilà. Et donc, il y a naturellement, je dirais, l'Égypte s'étend vers ce qu'on appelle la base Nubie, son sud, et quand elle le peut, quand les ressources lui permettent, elle va aller chercher effectivement des ressources et s'étendre au nord.
Alors la politique de conquête qu'il faut ensuite digérer, ça enrichit les pharaons, et puis toute une classe monarchiste, dites-vous Damien Agutte, issue quoi des soldats qui ont fait les campagnes et qu'on dote, ou des agents royaux qui sont des kleptocrates aussi.
Ce qu'on a appelé classe monarchiste, c'est tous les gens qui en fait vivent des revenus de l'État. Donc il y a des soldats, il y a des administrateurs, il y a des ouvriers de la couronne, donc tous les gens que finalement la richesse de l'État impérial de la seconde partie du deuxième millénaire permet de faire vivre.
Parmi les grandes familles locales en Chine, certaines accèdent presque au trône. Amenhotep III va ainsi épouser la fille d'une de ces grandes familles, Tiyi, qu'il comble de richesses, mais elle a l'air mécontente, cette dame.
L'empire des morts ne leur suffit pas. Il leur faut encore celui des vivants. Les grands prêtres possèdent des domaines innombrables. Du bétail par milliers, des troupes de paysans, tout un peuple de scribes, des masses d'ouvriers. Ils ont des policiers à leur solde, des intendants grassement pourvus pour diriger les travaux de leurs champs. Leurs entrepôts sont pleins.
Sur un texte d'André Chédid, une lecture de Marie-Thérèse Arène, c'est un téléfilm de Jean-Marie Coldefy en 1978. On n'a pas encore parlé des prêtres. Et vous dites qu'il y a des identités locales, il y a les temples et les prêtres, ça c'est très important aussi dans le rapport, le dialogue, parce qu'on peut employer ce mot-là, avec le pharaon.
C'est-à-dire que l'identité locale, à travers on la mesure surtout à travers la littérature égyptienne, est très très forte. Les Égyptiens sont avant tout, semble-t-il, se concevaient comme étant appartenant à une ville. Et l'identité de cette ville se manifeste à travers le panthéon local et l'institution religieuse chargée de rendre le culte à ce panthéon local, le temple. Le temple, lui-même, possède des terres. Et les prêtres touchent des revenus qui sont liés à l'exploitation de ces terres. L'image que j'emploie souvent avec les étudiants, c'est que les prêtres, c'est un peu le Rotary Club. C'est-à-dire c'est les gens qui sont les notables éminents de la cité, qui souvent sont aussi des propriétaires terriens. Ils ont des prébends dans le temple, ils sont propriétaires terriens. Ils peuvent aussi faire du prêt à intérêt. Et pour des très grosses villes, ces gens-là ont une influence nationale. C'est-à-dire que le pouvoir royal a intérêt à avoir ses élites locales avec lui, s'il veut, pas tant forcément éviter les troubles, mais simplement pouvoir prélever l'impôt confortablement.
Tiyi, c'est la femme d'Amenhotep III, c'est la mère d'Akhenaton. Il ne fallait pas oublier quand même, dans notre instantané du deuxième millénaire, Akhenaton, qui va tenter d'instituer un, ouvrons les guillemets, monothéisme. Alors vous, comme vous êtes spécialiste d'histoire sociale, vous dites qu'il ne faut pas négliger une interprétation de cette tentative légendaire d'Akhenaton. C'était peut-être un moyen de régler les contradictions de l'État pharaonique que la reine Tiyi, dans ses réclamations, avait elle-même senti.
Mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une grande classe monarchiste, énormément de gens dont les revenus ne viennent pas de prébendes de temples, ne sont pas localisés dans le pays, mais viennent du service qu'ils rendent à la couronne, qu'il s'agisse de services rendus en Nubie, en Égypte même ou au Levant. On peut aussi émettre l'hypothèse que cette religion du soleil, accessible à tous, visible par tous, dont le roi est le premier des servants, répondait en fait à un besoin religieux de cette catégorie sociale tout à fait spécifique et liée à l'existence même de l'Empire. C'est l'hypothèse que nous faisons.
L'Empire ne va pas durer tant que ça, au deuxième millénaire. Vous consacrez un chapitre à l'impasse qui a suivi, l'impasse des Ramessides. On en vient au premier millénaire, pardonnez-moi ma diligence. Là, l'Égypte s'avère ne plus avoir les moyens d'être un empire. Elle peut devenir une alliée, elle peut devenir une résistante face aux empires contemporains du premier millénaire. Elle n'a pas les moyens d'être un empire.
Non. Il semble les tentatives impériales ont été, se sont toutes soldées par un échec. Alors, on peut un peu avoir une explication déterministe qui impute ça simplement à l'état oisien de l'Égypte. Elle est isolée, les ressources sont peu nombreuses. Il n'est pas non plus évident que la population égyptienne ait été si importante que cela. Et elle cède en fait le pas au premier rang de l'histoire à des empires, l'empire assyrien, l'empire perse, l'empire babylonien, l'empire perse, et l'empire d'Alexandre le Grand et l'empire romain plus tard. Il y a un empire qu'il ne faut pas oublier, qui est l'empire de Napata,
C'est un pays d'Afrique, ça. Sixième, on n'enseigne pas ça. Les empires d'Afrique, c'est pas utile.
C'est dommage parce que l'histoire du Soudan est passionnante.
Qu'est-ce que c'est que ce royaume d'Afrique?
C'est un royaume qui est centré sur le Soudan actuel. Et c'est pas un royaume, c'est un véritable empire qui va, pendant à peu près un siècle, le 8e siècle avant Jésus-Christ, lancer une politique impériale qui va conquérir l'Égypte et se porter jusqu'au Levant où ils vont affronter directement les Assyriens.
Alors bon, donc ce sont des Noirs qui dominent l'Égypte?
Oui.
Mais je croyais que l'Égypte, c'était tous des gens qui venaient du Caucase, sans mélange, non?
Alors, je suis un bon historien français, c'est-à-dire que les problèmes de couleur de peau m'intéressent peu. Effectivement, là, nous sommes face à un empire africain et qui mérite tout à fait sa place d'empire aux côtés des grands empires du premier millénaire.
Les empereurs du premier millénaire des pays étrangers qui dominent l'Égypte reprennent l'allure du pharaon. Et même encore... Octave, quand il s'installe, 31 avant notre ère, quand il devient Auguste, manifeste pas vraiment une hostilité au système religieux. Il se glisse dans les habits du pharaon, mais ni lui ni ses successeurs ne vont venir quand même se faire sacrer. Qu'est-ce qui va se passer qui va faire que l'image pharaonique va s'effondrer? Sur une longue durée, il va falloir 2 siècles.
En réalité, si les Perses, les Grecs et les Romains vont se glisser dans la peau comme ça des pharaons, c'est pour une raison simple. C'est parce que les prêtres égyptiens ne peuvent pas rendre le culte eux-mêmes. Il leur faut, c'est le pharaon qui rend le culte en leur nom. Et donc, on se retrouve à une nécessité pour les prêtres égyptiens. Il faut qu'il y ait un roi quelque part. Donc, ils vont représenter le roi en place. Qu'il soit perse, qu'il soit grec, qu'il soit romain, n'a aucune, au fond, espèce d'importance, à la place des pharaons égyptiens traditionnels.
Mais les empereurs romains, expliquez-vous, figent le système des temples, ne lui permettent pas de se renouveler, et puis peu à peu vont l'abandonner sans qu'il y ait une volonté nécessaire de destruction. Enfin quand même, ils transforment le temple d'Amon à Louxor au 3e siècle en un camp militaire.
Il semble qu'il y a un mouvement qui est assez complexe à décrire, c'est d'affaiblissement de la foi des Égyptiens en leur propre religion. Et il y a un deuxième phénomène là qui est beaucoup plus net historiquement, c'est la conversion des empereurs au christianisme, qui là interdit les empereurs de se faire représenter, rendant un culte à des animaux ou à des dieux païens.
C'est donc dans les toutes premières années du 14e siècle que... Du 4e siècle, pardon, oui, moi je me mélange, de notre ère, que le dernier empereur pharaon présente une offrande à un dieu égyptien. Monsieur, c'est déjà fini? Comme disaient vos élèves de 6e. Chez Belin, Mondes anciens, 2e volume consacré à l'Égypte des pharaons avec Damien Agut, que nous recevions aujourd'hui, et Juan Carlos Moreno Garcia. L'émission a été réalisée par Valérie Estaraille, préparée par Frédéric Martin, avec à la technique Arnaud Caillet. Le message de Mathieu Vidard, quel est-il?
Un message hypnotique.
Ah oui, genre, ça vient de très loin.
Avec une invitée que vous connaissez bien, Elisabeth Rodinesco.
Que nous saluons bien.
Histoire de l'hypnose dans un instant.